Ta présence au milieu des tiens pour lesquels tu as donné ta vie. Tu as dit toi-même, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Quel amour t'a poussé à donner ta vie pour nous, brebis rebelles. Nous t'avons offensé de bien des manières. Et pourtant, rien n'a t'arrêté. Tu es allé sur la croix, porter nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos rébellions, afin de nous réconcilier avec Dieu le Père. Merci pour ton sacrifice parfait, où il n'y a plus rien à ajouter, tout est accompli. L'œuvre est achevée pour toujours et le sera pour toujours. Nous pouvons nous reposer en paix sur l'œuvre de la croix. Oui, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. À cause de la croix, merci Seigneur pour ta présence. Bénis encore ta parole maintenant. Tu nous l'as laissée, Seigneur, afin de nous instruire, de nous édifier, de nous exhorter, de nous consoler, de nous nourrir, afin que nous puissions continuer sur le chemin de victoire en victoire, de gloire en gloire, jusqu'au jour où tu viendras nous chercher. Que nous soyons tous prêts, Seigneur, pour ce jour, c'est notre prière. Que ton Esprit Saint nous aide maintenant à comprendre les Écritures et à recevoir ce que tu veux nous dire pour notre bien à chacun. Amen. Gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur pour sa présence. On aurait pu continuer comme cela. Quand on commence à adorer, à louer le Seigneur de tout notre cœur, c'est comme un fleuve qui coule du trône de Dieu. On est comme porté, transporté, de gloire en gloire, de victoire en victoire, qu'il est bon d'être dans sa présence. Mais il nous a laissé aussi sa parole afin que nous puissions marcher selon ses voies, non selon nos idées, non selon ce que nous pensons, mais selon ce que lui veut. Car c'est sa volonté qui doit être faite, et c'est lorsque nous faisons sa volonté que nous sommes dans une paix parfaite. Bien souvent, si nous sommes dans des tourments, des difficultés, c'est que nos réactions à la parole ne sont pas toujours les bonnes. Si on réagissait comme lui le voulait, eh bien, sa paix inonderait nos âmes. Ainsi, nous avons besoin de nous rappeler constamment sa parole. Et comme aujourd'hui, c'est Pâques, ce matin de Pâques était particulier pour les disciples du Seigneur. Et vous le savez, après sa résurrection, le Seigneur, le bon berger, a eu un peu de travail avec ses brebis. Les uns étaient dans telle situation, les autres dans une autre. Et il a passé combien de jours? 40 jours à consoler, fortifier la foi de ses disciples. Et j'aimerais qu'on voit ensemble brièvement, en tout cas les 5 consolations du ressuscité à ses enfants. Il est apparu à plusieurs, n'est-ce pas? Et il y a plusieurs entretiens que le maître a eu avec ses disciples, ses brebis. Et chacun avait comme un problème particulier. Chacun avait une petite faille qu'il fallait colmater, une petite blessure qu'il fallait guérir. Et le bon berger, agissant avec beaucoup de tact et d'amour, s'est approché des uns et des autres, comme il sait si bien le faire. Et nous allons voir ces 5 consolations du ressuscité à ses enfants. On ne va pas lire tous les textes, mais prenons un premier passage qui nous parlera de la première consolation dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Jean chapitre 20. À partir du verset 19, pardon. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » La résurrection, c'est cela. C'est la paix de Dieu qui inonde nos cœurs, qui devrait les inonder. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans les mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux. Et il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Vous l'avez remarqué, Jésus à plusieurs reprises, en tout cas 3 reprises ici, il est dit qu'il a dit à ses disciples, « La paix soit avec vous. » La première consolation que Jésus a apportée à ses disciples, c'était de leur apporter la paix à cause de la crainte qui était dans leur cœur. Les disciples étaient dans la crainte. Et dans l'évangile de Matthieu, il est dit aussi, l'ange leur dit, c'était aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Et plus loin, il est dit, « Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. » Et ils coururent porter la nouvelle aux disciples. Nous voyons donc la première consolation et la paix parce que les disciples étaient dans la crainte. Les femmes, les disciples aussi. Donc, le Seigneur connaît la crainte qui est dans le cœur de ses enfants, de ses femmes aussi. Elles se demandaient comment les choses allaient se passer. Elle se posait beaucoup de questions. Les disciples aussi étaient désemparés, vous êtes d'accord? Et il est dit à un moment donné, même qu'ils se lamentaient, qu'ils pleuraient. Il faut se mettre dans leur situation, vous êtes d'accord avec moi? Ils pensaient que Jésus, jamais il ne ressusciterait. Et pourtant, il l'avait bien dit, il les avait avertis. Il leur avait dit qu'il ressusciterait, qu'il ne les abandonnerait pas. Mais eux étaient comme obsédés par leurs problèmes. Et il en est ainsi, bien souvent, nous sommes tellement obsédés par nos problèmes que la crainte envahit notre cœur et que les paroles du Seigneur ne peuvent plus pénétrer en nous. C'est pourquoi il vient nous dire « La paix soit avec vous. » Je me présente à vous comme pour dire « Tout ce que je vous dis » je vous ai dit, était la vérité. Il n'y a plus rien à craindre. J'ai vaincu la mort, j'ai vaincu l'ennemi, j'ai vaincu la puissance du péché, j'ai vaincu vos plus grands ennemis. Il n'y a plus rien à craindre. Amen. Alors la première consolation, c'est au cœur craintif et troublé que Jésus est venu apporter cette paix et après cette joie profonde. Vous l'avez remarqué, les disciples, quand ils étaient dans cette pièce, il est dit que les disciples, où ils se trouvaient, le lieu où ils étaient fermé à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils avaient fermé les portes. Et vous savez, ça c'était un signe de ce que leur cœur était fermé. Au moment où ils fermaient les portes, ça révélait que le cœur était fermé. À cause de quoi ? À cause de la crainte. Vous voyez, la crainte ferme nos cœurs. La crainte ferme nos cœurs et nous empêche de recevoir le Seigneur comme il le voudrait, d'entendre le Seigneur comme il le voudrait. Alors le message de Pâques, c'est quoi ? Le premier message, ne craignez pas. La paix soit avec vous, parce que le trouble était là. C'est comme si Jésus voulait dire, mais j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu l'ennemi, j'ai vaincu le péché, j'ai tout vaincu. Il n'y a plus rien à craindre. Si je suis ressuscité, alors il n'y a plus rien à craindre dans notre vie. Le ressuscité, le bon berger sera toujours avec nous. Amen. Qu'est-ce qui est difficile à quelqu'un qui a vaincu la mort ? Qu'est-ce qui est trop difficile ? Vous parlez avec quelqu'un, vous dites qu'il y a vos problèmes, et c'est quelqu'un qui a vaincu la mort. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile pour cette personne ? Il a vaincu la mort. Donc tous nos problèmes à côté de cela, c'est rien du tout. Donc nous n'avons vraiment plus rien à craindre. Et Pâques, c'est cela, ne craignez pas. Car la crainte ferme nos cœurs. La crainte nous empêche de recevoir ce qu'il nous a dit et ce qu'il nous a donné. La paix soit avec vous. Le Seigneur est là. Il sera tous les jours avec nous. Ce qu'il a dit, il l'a accompli. Et ce qu'il a dit encore, qui n'est pas accompli, s'accomplira tôt ou tard. Nous devons lui faire confiance. Premier message de consolation, c'est au craintif. Vous n'avez plus rien à craindre. Et si nous craignons, apportons-lui nos craintes et disons-lui, Seigneur, tu as vaincu la mort. Tu es vivant au siècle des siècles. Je peux me confier en toi. Tu peux m'aider. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Il n'y a plus rien à craindre. La paix soit avec nous. Et si Jésus était là ce matin, vous croyez qu'il dirait autre chose ? Il se présenterait ici et il dirait, mes enfants, la paix soit avec vous. Quand c'est Jésus qui le dit, il n'y a rien à craindre. Ce n'est pas un menteur. Et sa paix apaise nos craintes. Il n'y a plus rien à craindre si Jésus est avec nous. Car la résurrection, c'est la présence de Jésus avec nous. Et s'il est avec nous, qu'est-ce que tu as à craindre ? Qu'est-ce que nous avons à craindre ? Il n'est pas seulement ici, mais quand tu rentreras à la maison, à ton travail, peut-être dans de grandes difficultés. Ne crains pas. Ne craignez pas. Il sera avec vous. Et s'il a vaincu la mort, s'il a vaincu le péché, s'il a vaincu l'ennemi, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Le Tout-Puissant est avec vous. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? Livingston, je me rappelle David Livingston, ce missionnaire anglais qui était en Afrique. Un jour, il était en Angleterre en train de rendre témoignage parce qu'il est resté plusieurs années au fond de la brousse africaine. C'était un des pionniers de la mission. La mission actuellement à côté de ces pionniers, c'est du gâteau, j'allais dire. C'est du gâteau. Mais ces pionniers, quand il est allé, il n'y avait rien. Il devait ouvrir des chemins dans la forêt, dans la brousse, dans tous ces lieux, hein, pleins de maladies. Et un jour même, il a été attaqué par un lion, si bien qu'il a été plus ou moins handicapé de sa main. Je ne sais plus si c'était la main gauche ou droite, mais enfin, il avait été handicapé par ce lion. Et quand il était là devant ses frères et sœurs en Angleterre, pour leur dire, « Vous savez ce qui m'a soutenu pendant toutes ces années, seul dans cette brousse africaine, au milieu des lions, des moustiques, de la maladie. » Des moustiques, c'est pas grand-chose, avoir peur des moustiques, mais les moustiques apportent la mort. Avec la malaria, le paludisme, et des centaines de missionnaires sont morts de la malaria et du paludisme. N'est-ce pas vrai? Ça, il y a le plan du Seigneur. Les uns, Dieu les prend, les autres les laisse. Mais lui, il a été gardé. Et il a dit, vous savez ce qui m'a soutenu pendant ces années de solitude dans cette brousse africaine, au milieu de tant d'ennemis, c'est cette parole du Seigneur. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Et c'est cette parole qui, au milieu de tous ses ennemis, l'ont gardée dans la paix profonde, dans une paix profonde. N'est-ce pas merveilleux? Parce qu'il est ressuscité. Il nous dit, ne crains pas, je suis avec toi. Les choses ne vont peut-être pas comme tu le voudrais, mais fais-moi confiance, remets-moi ta vie. Je te dirigerai, je te garderai, je te bénirai. Mais ne crains pas, tu n'as plus à craindre. Qui que ce soit, ils avaient la crainte des Juifs. Ils avaient peur que ces Juifs viennent leur faire des histoires parce qu'ils croyaient dans le Messie. La crainte de Dieu enlève toute crainte de l'homme. Amen.
Amen.
Crains Dieu. Crains le Seigneur. Ne t'éloigne surtout pas du Seigneur. Crains-le. Et tu ne craindras personne d'autre.
Amen, amen.
Car celui qui a dit, je serai avec toi tous les jours, le sera.
Amen.
Et bien souvent, lorsque nous voyageons aussi dans les pays d'Afrique, où souvent il y a aussi le danger, pas le danger dont je viens vous parler, mais il y a d'autres dangers. Souvent cette parole, je la caresse dans mon cœur. Seigneur, tu es avec nous.
Amen.
Tu es avec nous.
Amen.
Et cette parole me donne beaucoup de paix. Une paix profonde, il est là, il est là. Et lorsque la crainte essaye de prendre racine, non Seigneur, tu es là, il n'y a rien à craindre. Pourquoi craindrais-je un homme? Qui est l'homme pour que je craigne l'homme? C'est Dieu que je dois craindre. La vie de cet homme est dans la main de Dieu et il ne peut faire que ce que Dieu lui demande. Nous ne sommes plus esclaves de l'homme, mais nous sommes esclaves d'amour de Jésus-Christ. Le message de Pâques, mes enfants, la paix soit avec vous. Il n'y a plus rien à craindre. Quelle crainte as-tu dans tel ou tel domaine? Le travail, dans la famille, tes enfants? Qui n'a pas de problème? Vous êtes d'accord avec moi? Si on commence à discuter les uns les autres, dans chaque famille, il y a quelque chose. Chaque famille, si on veut être sincère, n'est-ce pas vrai? Mais mes amis, Jésus nous dit ce matin, ne craignez pas. Je suis ton bon berger. Je connais tout cela. Tu n'as pas à essayer de m'expliquer beaucoup de choses. Je sais tout. Je sais tout. Fais-moi confiance. J'ai un plan pour toi. Je t'aime. Fais confiance. Que la paix soit avec vous. Que c'est merveilleux, n'est-ce pas? À nos cœurs troublés, combien dans ces temps de la fin, nous avons besoin d'avoir constamment cette vision du ressuscité qui demeure avec nous. Les hommes t'abandonneront, tes amis même t'abandonneront, Mais lui, le fidèle, ne t'abandonnera jamais. Alléluia! Il ne t'abandonnera jamais. C'est l'ami fidèle et tendre. Alléluia. Cette pensée aussi me console beaucoup. Quand dans les combats, on a l'impression d'être seul à cause de Jésus, il est là. Il n'abandonne jamais les siens. Et il nous dit, la paix soit avec vous. Ne crains pas, il n'y a plus rien à craindre. Le Seigneur est là. Il n'a jamais abandonné les siens et il ne t'abandonnera jamais. Si toi, tu ne l'abandonnes pas, lui ne t'abandonnera jamais. Reste accroché à lui. Comme le sarment attaché au cep. Et tu porteras du fruit en ta saison. Laisse faire le Seigneur. Amen. Une deuxième consolation, c'était aux 11 disciples sur la montagne en Galilée, dans Matthieu 28, il est dit, quelques-uns eurent des doutes. Et Jésus leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi aller. Ici, c'était aux 11. Il amène la consolation à ceux qui sont dans le doute. Le doute était dans leur cœur, des disciples. Vous savez, douter n'est pas... Le Seigneur ne nous rejette pas parce que nous doutons. Thomas aussi a douté, n'est-ce pas? Mais vous savez, il y a les douteurs sincères et il y a aussi les douteurs professionnels. Thomas, lui, était un douteur sincère et les 11 disciples aussi. Il y avait des doutes, mais ils étaient sincères. Et quand le Seigneur s'est approché d'eux, leur a parlé, s'est révélé, ils ont cru, il y a quelque chose qui a changé. Mais avec certains, c'est des douteurs professionnels. Malgré toutes les preuves que vous leur donnez, malgré toutes les bénédictions, malgré tout ce que Dieu fait, ils ne croient toujours pas. Alors avec cela, Dieu ne peut rien faire. Mais avec ceux qui ont des doutes sincères, Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné ». Le fait de savoir que Jésus a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ça aussi, c'est une parole extraordinaire. Il est dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi aller. Il y a là quelque chose qui peut littéralement faire exploser.
Quelqu'un qui pourra tenir ferme.
Après qu'il eut souffert, il leur apparut. Nous relisons cette pensée. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Voyez-vous, derrière la puissance de résurrection de Jésus, il y a les souffrances. Il y a la croix de Jésus. Autrement dit, il ne peut y avoir de puissance et de vie, de résurrection, sans la croix de Jésus. Alors le premier fleuve est celui-ci, le premier principe, c'est un esprit de sacrifice. Le premier fleuve de nos vies que Dieu veut manifester dans notre vie et que Jésus a manifesté dans sa vie, c'est l'esprit de sacrifice. Pour Jésus, il n'y aurait eu de résurrection sans ses souffrances, vous êtes d'accord avec moi? Après qu'il eut souffert. Donc, derrière cette gloire de la résurrection, derrière cette puissance extraordinaire qui a roulé la pierre, qui a sorti Jésus du tombeau, qui a détruit les puissances du malin, derrière cette puissance, cette énergie surnaturelle, extraordinaire, il y a la réalité de la croix. Et cette réalité de la croix, c'est l'esprit de sacrifice. C'est parce que Jésus s'est donné pour nous, c'est parce qu'il a donné sa vie jusqu'à mourir pour nous, que maintenant, nous pouvons avoir la vie et la vie en abondance. Donc, la première pensée importante est celle-ci. sans esprit de sacrifice, il n'y a pas d'esprit de vie et de vie abondante. C'est impossible. Et cela va à l'encontre du raisonnement humain, à l'encontre des intérêts de l'homme. L'homme est foncièrement, par nature, égoïste. Il ne pense qu'à lui-même. Jésus était tout le contraire. Il ne pensait qu'à glorifier son Père et il ne pensait qu'à nous. Alléluia! Lorsqu'il était sur cette croix, la parole de Dieu nous dit qu'il a souffert l'ignominie de la croix. Il a été jusqu'au bout, mais en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. En vue de la joie qui lui était réservée, en vue des fruits qui allaient découler de la croix, il a accepté la souffrance. Et qui sont les fruits de la croix? C'est vous et c'est moi. Amen. Voyez-vous, dans tout ce que Jésus faisait, il y avait cet esprit de sacrifice. Jésus lui-même l'a dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, non pour être servi, voilà, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Voilà la pensée qui motivait constamment le Seigneur. C'était un esprit de sacrifice qui voulait dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et dans ce sacrifice, il y a la première pensée importante que je voudrais souligner, c'est le sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et cela, nous devons le comprendre. À cela, nous ne pouvons rien ajouter. Nous ne pouvons rien ajouter au sacrifice de la croix. Combien de fois nous entendons dans certains milieux chrétiens, « Oh, cette personne a tant souffert. Si elle, à cause de ses souffrances, elle ne mérite pas le ciel, alors je me demande qui ira au ciel. » Est-ce que vous n'avez pas entendu cela? Peut-être que certains d'entre vous, vous y croyez encore. Et vous pensez que peut-être à cause de vos souffrances, vos douleurs, vos maladies, vous irez un jour au ciel. Mes amis, cela est une vérité qui ne se trouve pas dans les Écritures. Nous devons donc avoir une notion claire du sacrifice de Jésus-Christ. Lui seul a porté nos péchés. Lui seul a payé notre dette. Et vous ne pouvez rien faire pour vous sauver vous-même. Cette vérité, qui est si importante, est encore inconnue dans beaucoup de vies, dans notre génération soi-disant chrétienne. Interrogez beaucoup de gens religieux et vous leur demandez « Comment espérez-vous être sauvé ?» J'espère qu'avec tous les sacrifices que je fais, j'espère qu'avec les bonnes œuvres que je fais, j'espère avec tout le bien que j'ai fait, j'espère que je serai sauvé. Mes chers amis, environ 9 personnes sur 10 vous diront cela. Vous serez étonnés, 9 personnes sur 10, ils basent leur salut sur leur propre sacrifice à eux, sur leur souffrance à eux, sur leur mérite à eux. Et en disant cela, nous ignorons la première vérité du salut, qui est que l'homme ne peut se sauver lui-même. Amen. Amen. Ta religion ne peut te sauver, quelle qu'elle soit. Qu'elle soit la plus belle, la plus grande, ta religion ne peut te sauver. Tes œuvres ne peuvent te sauver. Tes larmes ne peuvent te sauver. Rien ne peut te sauver. Jésus a dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Un homme perdu ne peut pas se sauver lui-même. Il a besoin d'un sauveur. Amen. Et voilà pourquoi beaucoup de gens religieux n'expérimentent pas la puissance de Dieu dans leur vie. Ils espèrent par leurs œuvres essayer de plaire à Dieu, d'avoir la puissance de Dieu, mais il n'y a rien du tout. Donc la première vérité est celle-ci, concernant le sacrifice de Jésus. Seigneur, c'est par grâce que je suis sauvé. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de moi, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voilà ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, Éphésiens 2, 8 et 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne dans le ciel, écoutez-moi bien, et ceci est important, c'est la base même de l'évangile, sans cela il n'y a pas de puissance. Aucune personne dans le ciel ne pourra se glorifier de ce qu'elle a fait pour Dieu, personne. Devant Dieu, la Bible dit que toute bouche sera fermée, personne ne pourra se vanter de quoi que ce soit. Nous n'irons pas au ciel à cause de ce que nous avons fait. Mais nous irons au ciel à cause de ce que Jésus a fait pour nous en mourant sur la croix du calvaire. Amen. Nous ne pouvons pas être sauvés par nous-mêmes. Cette vérité est vitale. Et des multitudes seront perdues parce qu'ils ne veulent pas écouter cette vérité-là. Ils sont religieux. Ils ont de la religion. Ils prient même. Mais ils sont perdus. Si un homme religieux pouvait être sauvé, c'est bien l'apôtre Paul qui pouvait être sauvé, n'est-ce pas vrai? L'apôtre Paul, c'était un homme religieux, c'était un pharisien, je vous assure. De la religion, il en avait. Et cependant, il avait une religion, mais il ne connaissait pas Jésus. Non seulement il ne connaissait pas Jésus, mais il persécutait Jésus. En s'opposant aux chrétiens, il persécutait Jésus. Non, mes amis, l'apôtre Paul lui-même, qui avait la religion, qui était fidèle à sa religion. Dieu lui a montré que tout cela, toutes ces œuvres de justice qu'il faisait pour Dieu, ne pouvaient plaire à Dieu. Et c'est pourquoi il s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de m'échapper contre les aiguillons. Et là, Paul est tombé à terre. « Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse ?» Et là, ses yeux se sont ouverts. Il a vu que ce ne sont pas ses œuvres, si belles soient-elles, qui pouvaient le sauver, mais c'était Jésus et son sacrifice à la croix. Amen. Oh, mes amis, êtes-vous au clair là-dessus? Pouvez-vous dire sincèrement, seul le sacrifice de Jésus peut me sauver, et rien d'autre. Rien d'autre. Il n'y a rien de tel pour humilier quelqu'un. Voilà pourquoi le salut est aux humbles, à ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont rien du tout que le sacrifice de Jésus. Amen. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens. Êtes-vous venu à lui tel que vous êtes? Cessez de vous justifier devant Dieu. Cessez de vous vanter que vous êtes religieux. Votre religion ne vous ouvre pas la porte du ciel. Seul le sang de Jésus nous donne accès dans la présence de Dieu. Combien d'entre vous ici, vous avez peut-être une religion, mais vous sentez qu'il n'y a pas de contact avec Dieu. Quand vous êtes avec les autres, avec des gens, des croyants comme cela, vous vous sentez un peu bien. Mais à peine que vous quittez ce lieu, tout de suite, vous avez l'impression qu'il y a un mur qui vous sépare de Dieu. Vous êtes bien avec les autres, mais lorsque vous quittez, il n'y a plus rien du tout. Vous n'avez pas de communion personnelle avec Dieu. Pourquoi? Parce que vous basez votre justice et votre salut sur vos propres œuvres, sur votre religiosité. Mes amis, j'insiste là-dessus, car c'est là la vérité centrale des Écritures. Amen. C'est pourquoi dans le ciel, à qui est-ce qu'on chante le cantique? À qui est glorifié dans le ciel? Qui est exalté dans le ciel, mes amis? Qui? La parole de Dieu nous dit, à l'agneau qui a été immolé, soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Les traces, les marques de l'agneau seront sur lui. Et il nous dira, mon enfant, c'est par ces meurtrissures que tu es sauvé. Et si tu entres dans mon ciel, ce n'est que à cause de mes souffrances pour toi. Mon enfant, viens tel que tu es. Repens-toi sincèrement. Tu peux être religieux, mais tu peux être perdu, même religieux. Tu as besoin de faire cette expérience de la conversion, de la nouvelle naissance. C'est pas une nouvelle religion qu'il te faut, c'est une nouvelle vie. Ton esprit a besoin d'être régénéré, ton esprit a besoin d'être purifié. Mais comment? Par tes prières, par tes larmes, jamais. Il n'y a que le sang de Jésus qui purifie de nos péchés. Et tant que tu n'as pas mis toute ta confiance dans le sang de Jésus pour être purifié de tous tes péchés, il y a un mur qui te sépare de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression qu'il y a un mur. C'est le mur de vos péchés. Vos péchés n'ont pas été ôtés. Et rien d'autre que le péché, que le sang de Jésus. Lorsque je me suis approché de Dieu, à l'âge de 20 ans, dans un camp de jeûne, et que, à la fin de ce camp, je me suis courbé devant lui, et j'ai dit, oh mon Dieu, j'avais une religion pourtant, mes parents étaient religieux, j'étais religieux, j'allais à l'église, je faisais beaucoup de choses, mais là, Dieu m'a parlé, il m'a dit, c'est maintenant que tu dois choisir, ou moi, ou le monde. Et je réalisais que mon cœur était partagé avec Dieu et avec le monde. Et voilà pourquoi je n'étais pas heureux. Voilà pourquoi il n'y avait pas de communion avec Dieu. Il n'y avait pas, j'étais religieux, mais séparé de Dieu. Et là, lorsque Dieu m'a parlé, il m'a dit, maintenant c'est fini, fais tomber ton masque. Plus de masque avec moi. Si tu veux la réalité, si tu veux me toucher, si tu veux me rencontrer, si tu veux la réalité, il faut que tu sois vrai avec toi-même. Enlève ton masque. Et quand Dieu m'a dit, c'est aujourd'hui que tu dois choisir ou moi ou le monde, c'est exactement ce que j'étais, parce que mon cœur était partagé entre les deux. J'étais un hypocrite. Devant les autres, j'étais un gars très bien, religieusement. Je parlais même du Seigneur aux autres, mais mon cœur était souillé. Mon cœur était impur, et je le savais. Et Dieu le savait aussi, et cela m'a touché. Et j'ai dit, Seigneur, oui, je ne peux plus rien cacher. Je me repens devant toi, sincèrement. Mon péché est là. J'avais honte tout à coup de mon péché. Et j'ai dit, Seigneur, Seigneur, je veux abandonner ce qui te déplaît. Et dans mon cœur, je voulais dire, je disais, Seigneur, je veux changer. Je veux devenir un vrai chrétien. Je ne veux plus qu'il y ait cette séparation entre toi et moi. Je ne veux plus que mon cœur soit partagé. Et j'ai dit, Seigneur, je me repens sincèrement. Pardonne-moi et purifie-moi par ton sang précieux. Et vous savez, je n'ai même pas fait une prière audible, mais c'était dans mon cœur. Vous savez, Dieu entend même les prières qui sortent du cœur, mais la prière sincère. Certains crient à Dieu, certains crient et Dieu ne les entend pas. Les autres ne disent rien du tout et Dieu les entend. Et là, j'ai dit, oh mon Dieu, j'en ai assez de vivre comme cela. Pardonne-moi et purifie-moi. J'avais un besoin de purification. Mes yeux étaient souillés, mes pensées étaient souillées, j'étais beaucoup souillé dans mes pensées étaient souillées. J'ai dit, Seigneur, purifie, je veux changer, j'ai besoin de toi. Et à l'instant où j'ai dit, Seigneur, pardonne, je veux changer ma vie, purifie-moi, viens dans mon cœur. Vous savez ce que j'ai senti? Instantanément, j'ai senti comme un poids qui quittait mes épaules. J'ai senti un poids qui s'élevait. Ouf. Ah, mais c'est pas possible. Je me suis dit, mais comment ça se fait? J'avais donc un poids sur moi. Jamais j'avais réalisé ce poids-là. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais... j'ai réalisé deux choses d'un seul coup. J'ai réalisé que Dieu n'était pas loin. Cette simple prière, toute simple, mais du fond du cœur, m'a montré une chose, que Dieu n'était pas loin. Qu'il était là. Amen. Dieu est près de toi, Dieu est près de nous, mais il faut que la prière soit sincère. Amen. Mes amis, ce n'est pas la formule de nos prières, ce n'est pas crier dans nos prières qui fait quelque chose, ce n'est pas gémir, ce n'est pas essayer de supplier Dieu qui fait quelque chose, c'est la prière sincère. Une prière droite du fond du cœur, nous pouvons tromper les autres, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous tournons en rond. Nous prions, mais nous voulons que les autres prient pour vous. Et beaucoup même ont prié pour vous. Et vous êtes toujours la même personne. Il n'y a pas de changement. La réponse à ton problème, la réponse à ton agonie, à tes souffrances, est dans une prière sincère devant Dieu. Amen. Amen. Veux-tu vraiment connaître Dieu? Veux-tu vraiment être pardonné? Veux-tu vraiment changer de vie? Veux-tu vraiment connaître l'amour de Dieu? Veux-tu connaître ce pardon véritable? Est-ce que tu le veux vraiment? Ou est-ce que tu joues à la personne religieuse? Est-ce que tu le veux vraiment? Beaucoup d'entre nous, avant de faire quoi que ce soit, nous devons résoudre ce problème-là. Amen. Nous devons répondre à cette question. Et là, j'ai vu qu'à la prière sincère, Dieu était là. Amen. Alléluia. Et si tu pries sincèrement, là où tu es, même là où tu es, il n'y a pas besoin d'attendre l'imposition des mains. Parce que moi, j'étais c'était sous une tente, c'était au fond de la tente là-bas. Le pasteur avait fait un appel pour que les gens se convertissent. Et ce soir-là, personne ne s'était repenti.
De la divinité et de l'omniscience et de l'omnipotence de Jésus. Alléluia. Nous n'avons plus rien à cacher devant lui, nous pouvons, il sait tout. Venons à lui et il nous aidera. Amen. Alléluia. Mais observez les petits détails, mes amis, parce que c'est là que beaucoup de chrétiens ont les yeux trop fixés sur les grandes choses. Ah, moi j'ai cru que... Ah, qu'est-ce que t'as cru? Ah, mais j'ai cru que ça allait être quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, eh ben... En général, quand on croit cela, Dieu fait exactement le contraire. Comme il a été dit ce matin, Dieu n'a pas nos pensées. Autant ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Autant ses voix sont au-dessus des nôtres. Ah, j'ai cru que... Ben, il faut que tu crois autrement maintenant. Ah, j'ai cru que... Ah oui, ben, c'est pas comme ça. Le Seigneur, lui, n'agit pas comme ça. Observe les petites choses, parce que c'est ton berger, il t'aime. Connais ta souffrance, il vient, même lorsque les portes sont fermées, n'est-ce pas merveilleux? Est-ce que c'est un problème pour lui? Un problème? Les portes sont fermées, il rentre, c'est la résurrection. Un problème. Il rentre, il s'en va. Il n'y a rien. C'est extraordinaire. Nous avons un sauveur illimité. Illimité. Et tout ça dans la grande simplicité, n'est-ce pas vrai? On ne voit pas des éclairs, des tonnerres quand Jésus vient. Bon, non! Comme on aimerait nous que ça se passe, c'est pas vrai? On est bien tous les mêmes. Et puis quand il n'y a pas des éclairs, des tonnerres, des machins, on dit il n'y a rien qui se passe. En général, quand c'est des éclairs, ces tonnerres, bien souvent, c'est du vent et des courants d'air, c'est tout. C'est le courant d'air. C'est pour ça qu'après les gens sont malades. À cause des courants d'air. Ils sont toujours dans les courants d'air. Toujours dans les courants d'air. Mais bien souvent, quand Dieu agit, vous le remarquez, il entre. Il ne l'aura pas dit, mais vous ne voyez pas, je viens de passer entre les murs. Mais voyons, mais vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a fait tout cela? Voyez-vous, le Seigneur ne cherche pas à nous en mettre plein la vue. Comme des hommes veulent nous en mettre plein la vue. Regardez la puissance que j'ai. En général, quand ça commence comme ça, ça finit toujours très mal. Dieu nous remet tout de suite au pas. Mais il est venu tout directement, ne pensant pas à lui-même, n'est-ce pas vrai? Il est allé directement vers Thomas. Il n'est pas là pour en mettre plein la vue à qui que ce soit. Avance ici ton doigt, Thomas, avance. Ça veut dire, je sais tout, Thomas. Je comprends ton problème, ta souffrance. Mais j'ai vu que tu es sincère. Tu n'es pas un douteur ou un incrédule professionnel. Tu es sincère. Viens, c'est moi, ton sauveur. Viens mettre ta main dans mes blessures. C'est bien moi, mon Seigneur et mon Dieu. Et lorsque Dieu fait quelque chose, lorsque nous voyons sa main, sachons le reconnaître et lui dire, Seigneur, merci et je me donne à toi. C'est ce qu'il attend. Il attend qu'on se donne à lui, qu'on lui dise merci, et ensuite, prends ma vie, Seigneur. Mon Seigneur est mon Dieu. Voyez-vous la relation intime? Il y a quelque chose de profond, là. Autant il y a eu des combats, ce Thomas, mais après, il y a une parole, une telle confession révèle une foi profonde. Il a été ébranlé, c'est vrai, mais après, il restait ferme. N'est-ce pas merveilleux? Et je termine maintenant. Une cinquième consolation. Et cette cinquième consolation, Jésus la donne à un homme découragé. Et vous savez qui c'est cet homme découragé? C'est Pierre, découragé. le bon berger. Il veut amener une consolation à quelqu'un qui est découragé. Pas seulement découragé, mais qui a aussi déshonoré son Seigneur. N'est-ce pas vrai? Il est découragé, mais il a renié son maître. Donc c'est un homme qui avait de gros problèmes et qui se demandait si, après tout ce qu'il a fait, le Seigneur l'aimait encore. Voyez-vous? Donc il est question ici de personnes qui ont fait des choses qui ont déshonoré Dieu. Ce dont nous avons parlé là jusqu'à présent, ce n'était pas des péchés graves comme cela, comme on en parle. Mais là, avec Pierre, c'est quelque chose de plus grave maintenant. Il a dit des choses extraordinaires. Tu es le Fils de Dieu. Il a fait des révélations merveilleuses, mais il a renié son maître. Là, c'est un autre problème. Donc, c'est quelqu'un qui est profondément découragé à cause d'un péché qui le tourmente. Lui, c'était cela. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a quelque chose d'autre qui te tourmente. Tu as déshonoré ton Dieu d'une manière ou d'une autre. Tu l'as déshonoré. Je ne parle pas maintenant de petits doutes, d'une tristesse, ou d'une crainte, ou d'une incrédulité. C'est quelque chose de plus. Le péché est là. Et on se demande, tu te demandes, est-ce que Jésus veut encore de moi? Et Pierre se posait cette question certainement. À peine avait-il fini de renier son maître devant cette servante que Jésus le regarda. Leurs regards se sont rencontrés et il est dit que Pierre s'en alla et il pleura amèrement. Découragé, il a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Mais dans le regard de son Seigneur, Pierre a vu que le Seigneur ne l'avait pas abandonné. Il avait dit même aux disciples, aux femmes, allez dire aux disciples, et à Pierre. Il l'a nommé Pierre. Voyez-vous, parce que son cas était un peu spécial. Il est le seul qui a renié comme ça le maître. Bon, Judas, malheureusement, lui, au lieu d'aller demander pardon, il a fait autre chose, ça c'est un autre problème. Mais avec Pierre, allez dire à Pierre, qui était sous un fardeau terrible, et je crois que cette parole aussi a dû toucher comment? Il veut encore me voir. Il veut encore me parler. Veut-il encore m'utiliser? Veux-tu encore faire quelque chose avec moi, qui suis indigne? J'ai renié le saint et le juste. Et il a tellement cru au pardon. L'œuvre profonde du pardon et de la restauration était tellement profonde en lui que le jour de Pâques, et quelque temps après, lorsqu'il s'adressait à la foule, il disait, vous avez renié le saint et le juste. Alors que c'est lui qui l'avait renié. S'il n'avait pas cru au pardon lui-même, s'il ne croyait pas qu'il était pleinement restauré, vous croyez qu'il l'aurait dit cela? Il ne l'aurait pas dit. Il ne pouvait pas le dire. Mais il pouvait le dire parce qu'il avait cru au pardon du Seigneur et que le Seigneur l'avait restauré en lui disant « Paix mes brebis, paix mes agneaux. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Tu as peut-être fait des choses qui ont déshonoré Dieu, mais tu aimes encore le Seigneur. Et le Seigneur te dit, paie mes brebis, paie mes agneaux, j'ai un travail pour toi. Si tu reconnais ta faute, si tu reconnais tes erreurs, je veux encore t'utiliser. Je ne t'abandonne pas. Reviens à moi de tout ton cœur. Je te pardonnerai, je te purifierai. Je te laverai, je te remplirai de mon esprit, je ferai de toi un homme nouveau, une femme nouvelle. Je t'aime encore. C'est la consolation aux consciences chargées. Le Seigneur est là pour te décharger de cette conscience, quelque chose qui te trouble. Tu te dis, est-ce que le Seigneur peut vraiment me pardonner cela? C'est trop grave! Il n'y a point de péché que le sang de Jésus ne puisse purifier. Il n'y a point de fardeau que le Seigneur ne peut enlever. Si tu veux seulement venir sincèrement devant lui, lui demander pardon, pardon Seigneur, je t'ai déshonoré. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, j'en ai honte. Pardonne-moi, purifie-moi. Le Seigneur le fera. Il te purifiera. Il te relèvera. Et il veut t'utiliser à nouveau, comme il a merveilleusement utilisé l'apôtre Pierre. Amen. Et devant cette foule le jour de la Pentecôte, il a amené plus de 3000 âmes, 3000 âmes au Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Voilà les consolations que le ressuscité a apportées à ses disciples, à ses brebis. Et je crois que nous sommes tous les mêmes. Ces cinq catégories se retrouvent encore au milieu de nous et se retrouveront au milieu de nous jusqu'à la fin des temps. Le ressuscité est là. Il a une réponse pour chacun. Il ne rejette personne. À moins que tu te rejettes toi-même et que tu t'éloignes de lui, il ne pourra rien faire pour toi. Parce qu'il ne te forcera jamais. Mais si tu veux venir et revenir à lui, ses bras te seront toujours grands ouverts. Il t'aime encore. Il t'aime. Il a versé son sang pour toi. Tu es sa brebis. Viens à lui. Il t'aime. Repens-toi seulement de ce qui n'a pas été à sa gloire. Repens-toi sincèrement. Dis-lui, pardon Seigneur. Je veux que ma vie te glorifie désormais. Je ne veux plus être le même. Pierre n'a plus jamais été le même. Amen. Quelle œuvre profonde de restauration. Il n'était plus jamais le même. Voilà la grâce de Dieu. Quelque temps tu oublieras tout ce que ta vie a été. Tellement sa grâce et son amour ont agi dans ta vie. Il te donnera encore beaucoup de choses. Et tu verras que son amour pour toi était un amour immense. Et que les choses anciennes seront passées dans ta vie. Et il fait toutes choses nouvelles. La résurrection, c'est le début d'une vie nouvelle. Où les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Croyons-le. Simplement, croyons sa parole. La réponse est là. Faisons confiance, même devant les évidences contraires, faisons confiance. Et le Seigneur, par sa parole, nous rendra libres. Non seulement libres, libres pour le servir, pour l'aimer, l'adorer et être un témoin autour de nous. Au Seigneur seul, soit toute la gloire. Et tu iras dire aux autres, comme le Jésus voulait. Ils courèrent le dire aux autres, voilà la résurrection. On est béni, mais on ne garde pas cette bénédiction pour nous-mêmes. Quelque chose de profond s'est fait en nous. On ne peut plus se taire. Je ne veux pas dire qu'on devient tous des prédicateurs, mais on devient tous des témoins. D'une manière ou d'une autre. Quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie, tu le dis. Faiblement, petitement, ça n'a pas d'importance. Dis-le. Si c'est quelque chose que tu as vécu, le Seigneur mettra le sceau sur cette parole. Et tu seras étonné de voir ce que Dieu peut faire. Au travers de la faiblesse de notre vase. Sa puissance se manifestera. Dieu a fait les choses ainsi, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Puissions-nous tous rester à ses pieds et lui donner toujours et toujours toute la gloire. Il est merveilleux. Il s'approche de nous comme il s'est approché le jour de ce premier matin de la résurrection, les jours suivants. Il s'approche de nous. Laissons-nous approcher par lui. Laissons-nous reprendre par lui. Laissons-nous purifier par lui. Laissons-nous relever par lui. Et laissons-nous, le Seigneur, laissons-le nous envoyer auprès des autres pour leur dire combien il est merveilleux. Il est réellement ressuscité. Voilà ce que les disciples d'Emmaüs ont dit. Puissions-nous le dire parce qu'ils ont vécu quelque chose de profond. Ce n'est pas une récitation. C'est parce que leur propre vie est passée par une résurrection.
comme ça que ça porte. C'est pas, il y a dans les églises traditionnelles, on dit Jésus-Christ est ressuscité, les autres répondent, il est réellement ressuscité. Mais bien souvent, on voit que les gens, ils sont morts dans leur péché encore, et ils disent que Jésus est ressuscité. Ça veut dire quoi, ça? Ils vivent dans le péché, ils font toutes sortes de bêtises, de choses qui déshonorent Dieu. Jésus est ressuscité, ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est déshonorer Dieu. Mais quand on le dit, parce que sa propre vie a passé par une vraie résurrection, alors ça portera. Et les plus faibles paroles auront un impact qui vous étonnera un jour.
Et au Seigneur soit toute la gloire.